bonjour à tous. L'écho embarque dans une machine à remonter le temps en direction la belle époque à la croisée des 19e et 20e siècles, une période glorieuse marquée par une foi immodérée dans le progrès et la modernité. C'est tout l'imaginaire et la nostalgie de ce monde perdu que nous allons explorer cette semaine en compagnie de trois de ses écrivains, Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, Jules Verne, grand maître de l'innovation, et Marguerite Audoux, peintre de la vie ouvrière. Mais d'abord, comme chaque lundi, place à l'actualité économique. Alors que la bataille s'engage contre les géants du numérique, l'Europe doit-elle réformer sa politique de la concurrence pour retrouver sa puissance? La discussion est ouverte. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour évoquer les nouvelles règles de la concurrence, nous avons le plaisir d'accueillir à distance trois invités. Anne Perrault, ancienne vice-présidente de l'Autorité de la concurrence et membre du Cercle des économistes. Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et Muriel Chieny, juriste, professeure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et présidente de l'Association française d'études de la concurrence. Une émission à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.
La crise actuelle nous fait encore plus, si c'était besoin, prendre en considération le fait que, précisément dans cet espace informationnel, on a tous vécu le confinement, on parle peut-être dans certains pays, on en reparle encore, et donc on voit bien que ces plateformes jouent un rôle absolument essentiel dans notre environnement, et que, comme je leur ai dit, vous voyez, c'est, encore une fois, ce que je dis, c'est contre personne. Je leur ai dit, il faut désormais vous adapter à nous, et pas nous à vous. Et donc, il faut absolument que vous preniez en considération l'environnement économique, social, démocratique dans lequel vous opérez. Et si vous ne le faites pas, eh bien nous allons réguler.
Si vous ne le faites pas, nous allons réguler. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché unique et de l'économie digitale. Il était au micro de Frédéric Martel sur France Culture le 25 octobre dernier. Bruxelles a donc décidé de mettre au pas les géants du numérique. La commission doit présenter demain deux grands règlements, le Digital Services Act et le Digital Market Act. Alors si le premier vise à mieux réguler les contenus sur Internet, le second cherche à réformer le droit de la concurrence et c'est cela qui nous intéresse. Anne Perrault, l'objectif, c'est de contrer l'hégémonie des grandes plateformes.
Oui, c'est-à-dire c'est plus précisément de se donner des outils vis-à-vis du pouvoir de marché de ces plateformes. Alors pourquoi ? Parce que en fait, le droit de la concurrence qui est entre les mains de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence, c'est fait ce qu'on appelle de la régulation ex post, c'est-à-dire c'est à peine de la régulation. C'est le fait que dans une économie de marché, on laisse les entreprises se comporter en fonction de leurs intérêts stratégiques, mais a posteriori, si on observe que des comportements anticoncurrentiels ont été mis en œuvre, par exemple des comportements d'entente ou d'abus de position dominante, alors les autorités de concurrence interviennent pour sanctionner. Mais évidemment, dans le domaine du numérique, il y a plusieurs raisons qui font que ces seuls outils ex post sont des outils insuffisants. D'abord, ils arrivent probablement trop tard, parce que tout va très vite sur les marchés numériques. Donc, une fois que un géant du numérique a mis en œuvre un abus de position dominante, par exemple, eh bien, très souvent, les concurrents sortent du marché pour n'y plus revenir. Et donc, on estime que la seule politique de concurrence avec ces outils traditionnels arrive trop tard. Donc en fait, se donner par le Digital Market Act, qui va être présenté demain, ces nouveaux outils de régulation, eh bien c'est faire un pas de côté par rapport aux traditionnels outils de la politique de concurrence pour pouvoir intervenir ex ante, c'est-à-dire interdire ou au contraire prescrire un certain nombre de comportements aux plateformes numériques avant qu'il ne soit trop tard, avant que des changements d'algorithme ou des changements dans la manière de marier des données entre elles ou de recueillir ces données ne permettent à ces géants de mettre leurs concurrents dehors, en dehors du marché.
Sylvie Matelli, en quoi concrètement les géants du numérique se rendent-ils coupables d'entraves à la concurrence et en quoi est-ce que c'est effectivement, comme le disait Anne Perrault, spécifique, il y a y a des mécanismes spécifiques à cette économie du numérique qui exige aujourd'hui qu'une nouvelle législation, que de nouveaux outils voient le jour.
Oui, oui, tout à fait. Alors, comme ça a été dit juste à l'instant, je crois que l'élément fondamental, c'est l'importance des positions acquises sur ces marchés. C'est-à-dire, jusque-là, quand on menait une politique de concurrence, partout dans le monde où il y a une régulation de la concurrence, vous calculez les parts de marché, et puis au-dessus d'une certaine part de marché, vous considérez que l'entreprise est en situation de monopole, et vous lui demandez de s'organiser pour ne plus être en situation de monopole. Et en général, qu'est-ce qui se passait? Ben, l'entreprise était découpée en plusieurs petits morceaux qui permettaient finalement de se recréer une forme de concurrence, voir l'entreprise créer elle-même cette concurrence. Avec les entreprises du numérique, c'est très compliqué ex post, comme ça vient d'être dit, puisque vous avez des coûts fixes, c'est-à-dire vous avez déjà des coûts très importants pour accéder au niveau de technologie à développer, puis dans l'utilisation même de ces activités, vous utilisez des bases de données, vous utilisez l'intelligence artificielle, vous utilisez ce qu'on appelle les métadonnées en français. Et donc tout ça, ça crée autant de barrières qui, une fois que vous les avez franchies et que vous êtes installé sur le marché, la concurrence n'est plus possible. Donc c'est en ça que vous affectez la concurrence. Et en fait, ce dont on se rend compte dans ce secteur, que ce soit du côté Chine ou du côté États-Unis, c'est que la plupart de ces entreprises ont réussi à accéder à cette position sur le marché parce qu'elles avaient des énormes marchés intérieurs. Donc ce qui leur donnait déjà un véritable avantage. Et le deuxième élément est du côté des États-Unis, comme du côté de la Chine d'ailleurs, c'est peut-être moins connu du côté des États-Unis, il y a quand même eu d'énormes subventions qui ont été accordées à ce secteur d'activité. Aux États-Unis, c'était au début des années 90, dans le cadre de ce qu'on appelait les dividendes de la paix, c'est-à-dire tout cet argent qui était sorti de la dépense militaire, sorti des dépenses du département de la défense, et tous ces ingénieurs et toutes ces compétences qu'on avait accumulées pendant la guerre froide, qu'il a fallu reconvertir, et le gouvernement a massivement investi. Donc si vous voulez, des deux côtés, on a investi, et c'est vrai qu'en Europe, parce que la politique de la concurrence, parce que les aides d'État sont extrêmement encadrées, on a eu moins de marge de manœuvre pour investir, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément le faire, ça c'est un vrai débat, mais simplement, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une situation où nos entreprises ont été défavorisées pour accéder à ce marché,
alors
sont aujourd'hui bloquées.
On va y revenir, Sylvie Matelli, c'est un aspect extrêmement intéressant. Pourquoi, effectivement, en Europe, on n'a pas vu émerger l'équivalent des BATX chinois ou des GAFA américains. Mais d'abord, parlons encore un peu de ce règlement qui devrait permettre d'empêcher des abus de position dominante. Pour bien comprendre, Muriel Chani, on se retrouve dans une situation aujourd'hui avec des géants du numérique qui, par exemple, comme le fait Google, vont mettre en avant une application de commerce en ligne, Google Shopping, au détriment des concurrents, ou utiliser des données des partenaires commerciaux pour leur faire concurrence. Ça a été reproché à Amazon. C'est de cette façon-là qu'on relève des entraves à la concurrence chez ces géants du numérique.
Alors effectivement, des pratiques telles que l'autopréférence, le fait de favoriser ses propres services, ou encore de faire une utilisation abusive des données qui sont recueillies, sont des comportements effectivement qui existent, qui sont d'ailleurs sanctionnés. À titre de rappel, la Commission européenne a infligé à Google plus de 8 milliards, je crois, d'amendes à l'occasion de 3 affaires. Simplement, comme Anne Perrault l'a bien souligné, le problème est celui de la temporalité, qui est absolument crucial, parce que une fois que la décision intervient, les dommages au marché sont irrémédiables, et d'autant plus que une fois que la décision intervient, il y a ensuite un appel, évidemment, qui a lieu.
Oui, ces procédures ouvertes en 2010 pour Google, je le précise au passage, sont toujours en appel, Muriel Chani.
Voilà, absolument. C'est pourquoi, effectivement, je me permets de rebondir sur ce point. Sans doute que dans les instruments existants, on aurait peut-être dû faire un usage plus important des mesures conservatoires ou mesures provisoires qui permettent d'agir plus rapidement. Et ça pourrait être aussi une piste de ce point de vue-là. Je voudrais peut-être également réagir alors par rapport à ce qu'a dit effectivement Sylvie Matelli, qui est très important effectivement, c'est que le droit de l'Union européenne se caractérise par un repose sur un trépied ou un triptyque. Hein, on a le contrôle des comportements des entreprises, le contrôle des concentrations, le contrôle des structures, donc, et ça, on le retrouve effectivement dans bon nombre de droits de la concurrence. En revanche, il se singularise effectivement par le contrôle des interventions publiques, contrôle des aides d'État, qui, comme elle l'a dit, effectivement, n'existe pas en droit américain, n'existe pas en droit chinois. À cela s'ajoute le fait que, on dit parfois que le droit chinois applique son contrôle des concentrations de façon un peu variable selon les circonstances. Donc c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire sans doute pour les entreprises de l'Union européenne.
Vous avez évoqué, Muriel Chani, ces amendes qui ont été infligées à Google. Ce sont des amendes qui peuvent être extrêmement conséquentes. On pourrait s'attendre à ce qu'elles soient dissuasives. Pourtant, ce n'est apparemment pas le cas. Comment l'expliquer ?
Eh bien, sans doute parce qu'elles ne sont pas suffisamment... Enfin, un économiste l'expliquerait sans doute encore mieux que moi, mais effectivement, une amende, pour être suffisamment dissuasive, il faut effectivement qu'elle apparaisse suffisamment sanctionnatrice pour l'entreprise concernée. Et sans doute que les mesures d'injonction, c'est pour ça que je parlais de mesures conservatoires ou provisoires, sont peut-être plus efficaces pour éviter effectivement que des dommages irrémédiables surgissent sur le marché, se réalisent sur le marché.
Anne Perrault, sachant que les amendes peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.
Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut voir, c'est que les plateformes auxquelles on inflige éventuellement ces sanctions pécuniaires sont en croissance absolument permanente, avec des chiffres d'affaires qui croissent de toute façon d'une façon tellement gigantesque que les sanctions ne peuvent apparaître que très faibles. Et c'est l'une des... au regard de leur chiffre d'affaires, et c'est l'une des motivations, hein, on n'a pas été tout à fait complet en faisant le tour des raisons qui ont fait basculer vers un peu plus de régulation ex ante, mais il y a non seulement un problème informationnel, hein, il faut que les autorités de concurrence puissent observer ce qui se passe sur ces marchés, or sur des marchés dans lesquels finalement beaucoup de choses dépendent de ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire que les algorithmes des plateformes résultent à la fois de la manière dont ils sont conçus, des objectifs qu'on leur donne et de la façon dont ils sont construits, mais ils se nourrissent également des données des utilisateurs à partir de desquelles ils s'auto-améliorent. Et donc ce qu'on observe finalement sur le marché, c'est à la fois le résultat de ce machine learning et des comportements potentiellement anticoncurrentiels dans certains cas, mis en œuvre par les plateformes. Donc pour une autorité de concurrence, il y a un premier problème qui est le problème de l'identification de l'intention, enfin, ou disons de la stratégie anticoncurrentielle mise en place par la plateforme. Et lorsqu'on observe ces résultats qui mêlent machine learning et stratégie, ça n'est pas toujours facile de discerner ce qui provient simplement de l'efficacité de l'algorithme et ce qui provient de la volonté d'exclure les concurrents. Donc il y a un premier problème. Le deuxième problème, c'est celui que Muriel Chani identifiait tout à l'heure, c'est le fait que il faut doter la Commission européenne qui jusqu'à maintenant... Alors bon, c'est un problème dont Muriel parlerait mieux que moi, mais du fait du contrôle extrêmement étroit de la Cour de justice, qui est tout à fait dans son rôle en examinant les conditions sous lesquelles ces mesures provisoires sont éventuellement mises en place, en réalité, la Commission européenne répugne à imposer des mesures provisoires. Ces mesures provisoires, c'est ce qui permet finalement de suspendre l'activité d'un marché le temps qu'on soit arrivé au bout de l'examen d'une pratique. Si on n'a pas ces mesures provisoires, bah évidemment, l'examen des pratiques, ça prend beaucoup de temps. Et pendant cette durée, comme on le disait tout à l'heure, les concurrents sont sortis du marché. Et la troisième raison pour laquelle on voudrait plus de régulation ex ante, c'est qu'effectivement, les sanctions sont assez faibles au regard des énormes marges de profit que ces entreprises dégagent. Donc tout ça fait que le droit de la concurrence dans ses formes traditionnelles est finalement toujours un peu en retard d'un métro sur les plateformes. J'ajoute que ces plateformes, alors ce que disait Sylvie Matelier au début, il faut juste mettre un tout petit bémol à ça. Sylvie Matelier avait l'air de dire que finalement quand on observe qu'une entreprise est en position dominante, eh ben on la découpe en morceaux et puis l'affaire est faite. En réalité, le découpage en morceaux, c'est quelque chose d'extrêmement rare. On est en train d'en reparler à propos précisément des plateformes numériques au regard des acquisitions que ces plateformes ont pu faire par le passé. Par exemple, il y a un débat en train de surgir, enfin, qui est plus qu'un débat aux États-Unis États-Unis, puisque les autorités américaines sont en train d'envisager de demander à Facebook de revendre Instagram et WhatsApp, qui sont deux acquisitions auxquelles Facebook a procédé ces dernières années. Mais il est assez rare, en réalité, qu'on découpe une entreprise en petits morceaux. On lui impose plutôt des sanctions et on lui impose des injonctions. Alors, mais ces injonctions, juste pour finir, ces injonctions, elles arrivent une fois les comportements mis en œuvre sur le marché et pas ex ante. Là, le Digital Market Act permettrait d'imposer des injonctions ex ante.
Je voulais vous faire entendre, pour rebondir sur ce que vous dites, Anne Perrault, deux interventions d'élus américains, car les États-Unis, eux aussi, se lancent dans la bataille contre les GAFAM.
Ils ont un pouvoir incroyable sur l'économie et sur la vie politique des États-Unis, et ce, de façon très dangereuse. Je pense qu'il nous faut une législation vigoureusement anti-trust dans ce pays. Que ce soit dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine financier ou dans le domaine de la technologie, il y a d'immenses corporations qui sont de moins en moins nombreuses. Nous avons besoin d'un procureur général qui comprenne les lois anti-trust, qui croit aux vertus de la concurrence et qui éclatera ces monopoles. Elle décourage l'entrepreneuriat, détruit des emplois, augmente les coûts et dégrade la qualité. En clair, elles ont trop de pouvoir. Avant la pandémie de COVID-19, ces corporations se distinguaient déjà en tant que titans de notre économie. Après la COVID-19, ils vont certainement émerger encore plus forts et plus puissants qu'avant.
Voilà, on vient d'entendre dans l'ordre Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, suivi de David Cicilline, le président démocrate du sous-comité de la Chambre des représentants sur la concurrence. Sylvie Matelli, du côté des États-Unis, on assiste aussi à un réveil de l'antitrust.
Oui, tout à fait. Et au-delà même de l'antitrust, il y a une prise de conscience, on l'a bien entendu dans les déclarations, une prise de conscience du pouvoir de ces entreprises. Je crois que c'est la première fois dans notre histoire contemporaine qu'on se retrouve face à des entreprises qui sont au cœur de nos quotidiens, au cœur de nos modes de vie. On ne peut plus aujourd'hui produire sans le numérique, on ne peut même plus quasiment vivre notre quotidien sans le numérique. On est tous connectés et on l'a vu avec cette période de Covid-19 et le télétravail. Donc on est tous connectés et on a des entreprises qui, du début à la fin de la chaîne, c'est-à-dire du début de l'expression d'un besoin de production ou de consommation jusqu'à l'assouvissement de ce besoin de production ou de consommation, vous avez les entreprises du numérique qui sont présentes à un moment donné ou à un autre. Et c'est vrai que aujourd'hui on dispose de cet instrument des politiques de concurrence et de l'antitrust pour essayer de réduire le pouvoir de ces entreprises, mais il est fort probable que ça ne suffira pas. Et qu'à un moment donné, on est face à un secteur d'activité qui est tellement au cœur de nos modes de vie qu'il va falloir penser d'autres politiques au-delà même de la seule concurrence en réalité. Alors on commence, le RGPD, toutes ces réglementations qui tentent à contrôler l'utilisation de nos données personnelles, toutes ces activités du numérique sont en train de se mettre en place, mais je crois que c'est le cœur du sujet là, c'est qu'on est face à des acteurs qui, pour la première fois de notre histoire, me semble-t-il, j'en oublie peut-être d'autres, mais pour la première fois de notre histoire, sont vraiment au cœur de nos modes de vie.
Alors, toute la question, c'est effectivement, est-ce qu'il va falloir être dans une attitude défensive, vous parlez du RGPD, ou dans une attitude qu'on pourrait qualifier d'offensive, c'est-à-dire avec cette idée de permettre à des acteurs alternatifs d'émerger en Europe. À ce propos, est-ce qu'on pourrait, il est possible de démanteler véritablement les GAFA? C'est ce que proposait la sénatrice Elisabeth Warren lors de sa campagne début 2019, et Thierry Breton, le commissaire français chargé du marché unique et de l'économie digitale, qu'on a entendu au début de l'émission, n'a pas exclu justement la possibilité de démanteler ces entreprises en cas d'abus de position dominante. C'est possible sur le plan à la fois juridique et technique, Muriel Chani?
Alors, d'abord, première observation, c'est vraiment la mesure ultime. Je crois que Margaret Vestager, par exemple, qui est assez hostile, c'est vrai que pour prendre l'exemple français, le Conseil constitutionnel français en 2015 a censuré une disposition de la loi dite Macron qui prévoyait d'introduire une injonction structurelle. Il l'a censurée pour des raisons d'atteinte au principe de la liberté d'entreprendre et également le droit de propriété. Donc ça, c'est quand même une mesure extrêmement grave, me semble-t-il. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas possible. C'est vrai que c'est envisagé, vous l'avez dit, aux États-Unis. Ça s'est déjà produit dans le passé.
Le démantèlement de la Standard Oil en 1911, oui, par exemple, ou d'AT&T en 1982.
Absolument. Alors après, moi, il me semble aussi que ça pose peut-être la question d'autres modes d'intervention, peut-être. Je pense en particulier, et je crois que c'est dans le DMA qui devrait sortir, c'est la liste de pratiques interdites. Alors c'est quelque chose qu'on connaît bien en droit français et qui consiste à viser donc un certain nombre de pratiques qui vont être interdites ex-ante et sans qu'on ait à vérifier effectivement dans certains cas qu'elles portent atteinte à la concurrence, parce que l'atteinte est en quelque sorte présumée. Et ça peut aussi, pour certains des comportements des plateformes, être efficace. On en a des exemples, effectivement, en droit français.
Comme quoi, par exemple ?
La condamnation d'Amazon et la condamnation de Booking devant le tribunal de commerce de Paris, il y a déjà un certain temps, et qui ont effectivement abouti à ce que certaines clauses soient annulées, en fait.
Alors, on l'a dit, le texte de la Commission prévoirait, par exemple, d'obliger les grandes plateformes à partager leurs données avec les entreprises concurrentes, ou encore de les empêcher de préinstaller leurs applications sur les smartphones. Mais on peut se demander si il est vraiment possible de faire respecter ces règles, en fait, d'y arriver. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, Anne Perrot, et créer un vrai régulateur européen, comme on l'a fait pour le secteur bancaire, par exemple, après la crise financière de 2008?
Oui. Alors, si vous permettez, je voudrais revenir très brièvement sur ce qu'on vient de développer. Dans toutes ces histoires de démantèlement, il faut se méfier d'être un peu trop va-t-en-guerre. D'abord parce que bon courage aux régulateurs qui devraient prendre ses ciseaux pour découper Google en morceaux. Hein. Google, c'est des millions de lignes de code et d'algorithmes qui communiquent les unes avec les autres, et donc c'est pas simple. Quand bien même on voudrait se retrousser les manches, je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés à opérer ce découpage. Et puis, plus d'un point de vue bien-être collectif, il y a tout de même un arbitrage entre efficience et concurrence. C'est pas complètement par miracle que ces plateformes sont arrivées à occuper les positions qu'elles occupent. C'est parce qu'elles ont des logiciels, des algorithmes extrêmement performants, qu'elles améliorent tous les jours ces algorithmes en les faisant fonctionner à l'aide des données qu'elles recueillent sur les utilisateurs, ce qui est évidemment un autre problème de confidentialité des données et d'utilisation des données. Je vais y revenir, mais il y a quand même un arbitrage entre efficience et concurrence. D'un côté, on voudrait qu'il y ait beaucoup de concurrents, mais de l'autre, c'est évidemment la position très hégémonique, comme vous le disiez, qui permet à ces plateformes d'être aussi efficaces dans les services qu'elles offrent. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas qu'une seule forme de démantèlement, qui est le découpage pur et simple. On peut imaginer d'autres formes de séparation, des séparations fonctionnelles, des séparations comptables, des séparations aussi dans l'utilisation des données. Je prends pour exemple la publicité en ligne. On vient de sortir avec deux co-auteurs, Quentin Jagorel et Mathias Emmerich, un rapport sur le sujet de la publicité en ligne, ce qui permet à Google d'être extrêmement efficace lorsqu'il tire ses revenus de la publicité en ligne. C'est le fait, entre autres choses, de pouvoir marier les données qu'il retire de l'utilisation de son moteur de recherche, le search, avec des données, par exemple, issues de la navigation sur YouTube, que Google a acheté il y a quelques années. Le fait de pouvoir marier ces données, ça permet de faire des publicités ciblées, et ces publicités ciblées valent évidemment beaucoup plus cher que des publicités envoyées comme ça un peu dans la nature de manière générale, comme par exemple une affiche dans la rue ou quelque chose comme ça. Et donc on pourrait très bien imaginer des choses qui ne sont pas le démantèlement, mais qui sont par exemple l'interdiction de marier les données issues de YouTube avec les données issues du search. Et donc on peut imaginer, on peut être plus inventif en réalité dans le découpage. On peut faire un espèce de découpage des données, un découpage comptable, un découpage fonctionnel. On peut interdire à ces gigantesques plateformes de tout marier, et c'est ça finalement qui leur donne un avantage concurrentiel gigantesque.
Et est-ce que ça permettra vraiment de voir émerger des acteurs alternatifs en Europe, parce qu'il y a aussi d'autres voix qui s'élèvent, Sylvie Madelli, et qui disent que ces législations que prévoit la Commission européenne pourraient aussi avoir des effets pervers sur les start-up européennes, en ce sens qu'elle risque de miner la confiance des investisseurs.
Oui, j'ai vu passer ces articles. C'est difficile à dire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que les acteurs européens et les entreprises européennes ont manqué de soutien, et en particulier de soutien financier, et qu'effectivement, la crainte, c'est qu'un cadre réglementaire puisse limiter leur activité. Néanmoins, on peut se rendre compte qu'elles subissent aussi, au-delà du manque de financement en européen, elles subissent aussi les positions acquises par les grandes entreprises, et donc un cadre réglementaire qui permettrait justement de limiter le pouvoir de ces grandes entreprises pourrait leur être utile et leur servir. Et elles travaillent ces start-up, elles travaillent aussi avec les grandes plateformes, quoi qu'il en soit, mais aujourd'hui elles sont, par manque de réglementation, elles sont aussi dans une situation qui est extrêmement déséquilibré. Vous le voyez, alors c'est pas les start-up, mais vous le voyez sur le site d'Amazon. Il y a quelques mois, tout un ensemble de réactions des acteurs du marketplace d'Amazon qui expliquaient qu'effectivement Amazon leur imposait sa politique et sa stratégie parce que c'est Amazon qui était le plus visible et qui avait le plus de pouvoir. Et pour revenir un peu sur ce qui a été dit, que ce soit par Muriel Cheny ou Anne Perrot, je crois que effectivement, la difficulté de démantèlement de ces entreprises est très compliquée.
Ah, il faut que vous vous rapprochiez, Sylvie Matelli, de votre micro, parce qu'on vous entend très mal. Voilà, c'est parfait.
Oui, ça va mieux comme ça.
Très bien.
C'est très compliqué, outre le fait que ces entreprises sont extrêmement complexes et que les démanteler va être difficile. Il y a aussi cet arbitrage qui doit être fait entre le besoin que l'on a aujourd'hui de numérique, et qui est essentiel et qui le sera d'autant plus. On sait pertinemment que l'un des défis qui se pose à nous, la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, va être en partie réglée, ou en tout cas va être mise en œuvre par les smart grids, et finalement la mise en réseau d'un certain nombre la mise en réseau en fait entre le producteur d'électricité et le consommateur, la meilleure gestion des flux de consommation, etc. Donc on s'aperçoit que ces acteurs sont devenus des acteurs incontournables, comme je le disais tout à l'heure, de notre quotidien, et que les démanteler, c'est peut-être aussi
se priver de services qui nous sont nécessaires.
Tout à fait.
Alors, est-ce que ces services-là pourraient être pris en charge par des acteurs européens? La question qui se pose, c'est est-ce que ça n'est pas déjà trop tard, Anne Perrot? L'Europe aurait raté la marche de la révolution numérique?
Alors, elle l'a en partie ratée, de fait. Je pense qu'il y a un constat d'échec très clair à dresser, mais les causes de ça sont très nombreuses, et je crois que la politique de concurrence est des facteurs parmi les autres, parce que il y a plusieurs points. D'abord, il y a des travaux qui suggèrent que aux États-Unis, la politique de concurrence a été appliquée avec moins de zèle qu'en Europe. Il y a les travaux de Thomas Philippon notamment qui montrent que la concentration a beaucoup augmenté aux États-Unis, tandis qu'elle a diminué en Europe. Mais c'est plutôt une bonne chose pour les consommateurs européens qui ont donc accès à des marchés à meilleur prix, etc. Donc ça c'est un élément parmi d'autres. Après, il y a la question de savoir si c'est par des aides d'État, finalement, parce que ce qu'on a l'air de dire, c'est que il faudrait une politique plus volontariste en Europe si on veut voir émerger un secteur numérique de bon niveau. Alors, c'est partiellement vrai, parce que il est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, la DARPA, qui est donc cet organisme qui est lié à la défense, mais qui bénéficie de subventions très, très importantes, a permis le développement du secteur numérique et permet énormément d'innovations. Dans des domaines variés. Donc c'est certain. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ressortent plutôt des décisions des agents privés, comme par exemple l'existence d'un secteur du capital risque suffisamment favorable, des investisseurs qui veulent effectivement prendre des risques pour investir dans des start-up qui n'ont pas de business model et dont on ne sait absolument pas au jour où on investit si on va rentrer dans ces fonds ou pas. Donc il faut des structures qui permettent le développement du capital risque. Et puis il y a un autre facteur qui fait énormément de défaut en Europe, mais qui est un peu lié au problème de la DARPA, c'est que en Europe, et ça c'est vrai aussi bien dans les start-up de la tech que dans les biotech par exemple, il y a une trop grande distance entre la recherche académique, celle qui se développe dans les laboratoires de recherche et les universités, et le monde de l'entreprise. Ce pont est mal fait, même s'il y a beaucoup d'efforts et une prise de conscience de ce problème. Et beaucoup d'efforts développés pour essayer de franchir ce pont entre la recherche fondamentale et les applications qui vont pouvoir venir sur des marchés. En Europe, on est assez mauvais, et en France en particulier, on est assez mauvais de ce point de vue-là, alors qu'aux États-Unis, cette dimension de la mise en marché des innovations est absolument cruciale. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour développer ça.
Muriel Chani, sur ces obstacles auxquels font face les start-up européennes aujourd'hui, et peut-être sur les moyens de les dépasser.
Alors écoutez, la juriste que je suis vous fera une réponse de juriste, surtout en présence de deux économistes fort réputés. C'est vrai que ce que j'ai tendance à penser, c'est que sans doute il faut un petit peu réfléchir du côté des aides d'État. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce qui singularise le droit de l'Union européenne par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Et la crise de la Covid-19 a montré que dans certains cas de figure, on était capable, les autorités de concurrence ont été capables de réagir très vite, ce qui mérite d'être salué, et d'adopter des mesures prenant en considération une situation exceptionnelle. Alors peut-être effectivement que cela conduit à se demander s'il ne faudrait pas précisément introduire davantage de prise en compte d'autres objectifs d'intérêt général. Et ça renvoie effectivement à des considérations peut-être de politique industrielle au sens large du terme.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'Europe a déjà commencé à réagir tout de même depuis une dizaine d'années. On peut citer quelques succès comme le géant suédois Spotify. Et puis on se souvient aussi qu'en 2014, la Commission européenne lance le plan Horizon 2020 qui avait été qualifié à ce moment-là de plus grand programme de recherche et d'innovation jamais réalisé par l'Union européenne. Aujourd'hui, Anne Perrot, c'est la deep tech, la nouvelle vague de la révolution numérique qui concentre tous les espoirs. Elle pourrait permettre à l'Europe, en quelque sorte, de revenir dans le jeu.
Oui, certainement. Il y a plusieurs sujets, malgré tout, hein, qui, si on essaye d'étayer un peu le constat du déficit européen par rapport aux géants de la tech, mais encore, comme je le disais aussi, des biotech. Hein, c'est le cas aussi dans les biotech. Pour revenir au sujet concurrence, il me semble que malgré tout, il y a quand même au moins trois conditions qui devraient être réalisées et qui, pour le coup, sont vraiment entre les mains de la politique de concurrence que d'autres. Morceaux du droit, c'est l'interopérabilité facilitée avec les logiciels, algorithmes développés par les grandes plateformes est évidemment un facteur qui permettrait à des start-up innovantes d'accéder au marché dans des conditions nettement meilleures. Et ça, c'est précisément ce que pourrait essayer de faire le Digital Market Act, hein, faciliter l'interopérabilité. Il y a un autre point qui est que dans certains cas, les données collectées par ces plateformes sont pratiquement un alors pour employer du jargon, c'est pas exactement ça, mais sont pas très loin de ce qu'on appelle une facilité essentielle, c'est-à-dire à la fois un actif auquel il est indispensable d'avoir recours si on veut développer sa propre activité et qu'on ne peut pas reproduire à moindre coût. Hein. Alors traditionnellement, on avait l'habitude d'appliquer ce vocabulaire de facilité essentielle plutôt à des choses comme les rails de chemin de fer ou les lignes à haute tension, mais après tout, les données peuvent aussi constituer une facilité essentielle. Donc l'ouverture des données, plus l'interopérabilité, plus le fait de pouvoir avoir accès à des ressources publicitaires, puisque finalement on se rend compte que dans un domaine, le numérique, où le modèle de service au consommateur est très souvent le modèle du gratuit, ben, le gratuit c'est pas complètement gratuit, c'est-à-dire il faut bien être financé d'une manière ou d'une autre, et donc pour ça il faut avoir accès aux ressources publicitaires, mais là encore on se heurte à la prédominance de Google et de Facebook. Tous ces facteurs qui sont vraiment dans l'objectif du Digital Market Act, qui sont d'ouvrir les ressources publicitaires, d'ouvrir les données, de favoriser l'interopérabilité, ça c'est vraiment des choses qui permettraient aux start-up innovantes européennes de progresser sur le marché.
Et qui aideraient aussi peut-être à garder les talents, c'est aussi l'un des grands enjeux. Et puis évidemment, on en a dit un mot, mais la question des sources de financement, favoriser le financement de ces start-up, peut-être en créant une place boursière attrayante pour les valeurs technologiques. C'est une idée qu'on a pu voir surgir ici et là. Mais alors, au-delà du numérique, est-ce qu'il faudrait réformer le droit de la concurrence qui est responsable pour certains d'un affaiblissement industriel de l'Europe ? On en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Oh.
J'arrive pour foutre la concurrence au placard, je crois pas en la chance, je vais pas percer par hasard. Le flow lui est à part, j'ai grosse voix de bâtard, je suis très généreux de rimerie, je suis pas avare. Sur le beat, je vais faire preuve de technicité, les multisyllabiques sont trop plébiscités. Faudra me féliciter pour le fait que je sois cité, comme la relève du rap sans parler de la cité. Ouais, c'est bon, mais c'est que le premier acte. Allez, get, c'est con, dis-moi pourquoi tu jactes. La jalousie est un vilain défaut, des potes t'en as des vrais, t'en as aussi des faux. Même si j'hésite des fois dans le générique de fin, je suis sûr que d'une chose la concu sera des fins. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Aucune idée, elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Elle n'existe pas. Tu m'as connu avec le rap poulet. Je voulais juste délirer à la base. Maintenant c'est la bataille navale. Touché, coulé. Je laisse la concu boire la tasse. A chaque texte de rap on sait que je casse. C'est pour une folle Marianne. Balance des punchlines venues de l'espace. Je suis sponsor par Ariane. Ou Apollo. Espèce de rigolo. Ça fait un an que je me suis lancé dans le rap. Va falloir tout miser sur moi comme au loto. Ils se demandent tous d'où vient ce mec. Kick sale. Qui n'est pas sympa. Je déborde de flotte. Puis ma naissance, c'est Niagara. Dans le placenta. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Aucune idée, elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Elle n'existe pas. Y'a ma musique à la prod. Ah, mais quant à lui, est à la réalisation. J'ai des palpitations. Quand je sais que les phases de ce morceau deviendront cultes, seront vos citations. Oh, quelle excitation. Oh putain, mon inspiration. Et sans fin, en accélération. Je mets pas le frein, parle-moi de méditation. J'entends rien. Comment veux-tu que je me calme quand on compare à des gens qui sont pas au niveau sur une instrumentale? Je ne les vois même pas, mais eux croient qu'on est des rivaux. Comment veux-tu que je me calme quand on me compare à des gens qui sont pas au niveau sur une instrumentale? Je ne les vois même pas, mais eux croient qu'on est des rivaux. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Aucune idée, elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Encore je crois qu'on m'a menti, gros, elle n'existe pas. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Aucune idée, elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle?
La concurrence par le rappeur D-Ace. Faut-il réformer les règles européennes de la concurrence, accusées par certains d'empêcher l'émergence de champions industriels? C'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Anne Perrault et Sylvie Matelli et de la juriste Muriel Chani sur France Culture. Alors l'offensive contre le droit européen de la concurrence a véritablement commencé en février 2019 lorsque la Commission européenne a rejeté le projet de fusion entre Alstom et Siemens.
Nos enquêtes ont identifié de sérieux problèmes de concurrence dans cette fusion. Nous avons estimé qu'elle aurait conduit à une hausse des prix, à moins de choix, moins d'innovation. Aucune solution n'a été proposée par les deux entreprises pour se conformer aux règles.
La décision de la Commission est une mauvaise décision. C'est un mauvais coup à l'industrie européenne.
C'est une faute politique. Parce que la décision de la Commission européenne va renforcer l'industrie chinoise et affaiblir l'industrie européenne.
Voilà, Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, suivie d'Edouard Philippe et de Bruno Le Maire. Ce qui a été reproché à la Commission européenne, Sylvie Matelli, c'est justement d'empêcher l'émergence de géants industriels européens.
Oui, tout à fait. C'était de toute façon le rôle qui était assigné à la DG Concurrence. Et donc,
ah, Sylvie Matelli, ouais. Nous ne vous entendons plus. Anne Perrault, je vous passe la parole.
Oui. Sur ce point, Alstom-Siemens, on ne va pas refaire le match ex post. Hein. Toute la question, c'est est-ce que ça appartenait à la Commission européenne le rôle de dire bah, finalement, tant pis pour les consommateurs européens, il y aura moins de concurrence en Europe, les prix risquent d'augmenter pour les gens qui achètent des locomotives, de la signalisation, etc. Tant pis, ce sont in fine les consommateurs européens qui paieront ça. Mais ça permettra à l'entité fusionnée, issue de la fusion Alstom plus Siemens, d'oser se développer sur les marchés internationaux. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de points de vue assez divergents qui se sont manifestés sur cette question. Alors oublions le cas particulier d'Alstom Siemens. Qu'est-ce qu'on peut dire de général sur ces problèmes de méga-fusion et d'avantages concurrentiels sur les marchés internationaux?
Première oui, de général, chose, parce que Anne-Pierre, je vous interroge juste pour dire oui. Que la Commission n'a bloqué que 10 fusions mais au cours ça. De la dernière décennie. Et qu'elle en a accepté 3000. Donc effectivement, voilà. Comment comprendre les problèmes que cela pose?
Voilà. Alors déjà, il y a une première question, c'est est-ce que quand on a moins de concurrence à l'intérieur, on se développe mieux sur les marchés internationaux? Donc là, il y a énormément d'études empiriques menées par des économistes spécialisés en concurrence et commerce international qui ont plutôt tendance à montrer le contraire. C'est-à-dire que c'est le fait d'être soumis à un bain concurrentiel, une intensité concurrentielle importante à l'intérieur de ses frontières ou de l'espace européen en l'occurrence, qui permet d'aller gagner des appels d'offres ou des marchés à l'international. La deuxième question, c'est est-ce que quand on est plus gros, en soi, on est plus innovant? Alors, dans les plateformes numériques, un peu oui, la réponse est un peu oui, parce que plus on est gros, plus on a de données, et plus on a de données, plus on améliore ses algorithmes. Quand on fabrique des TGV, c'est moins sûr, hein. Et là, il n'y a pas énormément de preuves empiriques et même d'arguments théoriques pour dire que des entreprises de taille plus grande, alors bien sûr, elles abaissent leurs coûts fixes dans un premier temps, mais il n'y a pas que les coûts fixes. Une fois que l'innovation est obtenue, finalement, il y a aussi du coût variable qui reste à couvrir. Est-ce que les rendements d'échelle sont tellement importants que finalement on préférerait avoir un monopole? Non, parce que dans cet arbitrage entre concurrence et efficience, il y a aussi beaucoup d'incitations à l'innovation qui viennent justement du fait d'être soumis à un bain concurrentiel, une intensité concurrentielle importante. Et puis par ailleurs, ça c'est le volet contrôle des concentrations. Encore une fois, on a plutôt tendance à penser que d'une part la Commission n'a pas été très restrictive dans ses interdictions et d'autre part c'est plutôt une bonne chose d'avoir de la concurrence sur les marchés pour se développer même à l'extérieur. Et puis d'autre part il y a le volet aide d'État, mais je pense qu'on va
y revenir. Je voudrais simplement avant cela, et on va en parler absolument, redonner la parole à Sylvie Matelli qui est revenue parmi nous et vous demander à Sylvie Matelli s'il y a eu une prise de conscience quand même des limites de cette doctrine européenne de la concurrence, puisque Margrethe Vestager a tout de même estimé en décembre 2019 que le temps est venu d'actualiser les règles de la concurrence dans l'UE, je la citais, et donc il y a une réforme qui devrait intervenir en 2021. C'est tout de même le signe que la réflexion stratégique de l'Europe a évolué face à la nouvelle donne économique et technologique mondiale.
Oui, tout à fait, je pense effectivement, et oui, tout à fait, vous m'entendez, parce que je crois que j'ai été coupée tout à l'heure.
Absolument. On vous entend très
génial.
Bien.
Génial. Oui, je rejoins complètement ce qui a été dit. Alors, j'ai pas entendu le début puisque j'étais hors ligne, mais j'ai entendu la fin. Et la dimension concurrence est essentielle. C'est-à-dire, faut avoir bien conscience que si vous réduisez la concurrence, vous réduisez aussi l'agilité des entreprises. Et souvent, les entreprises les plus importantes, et ça, c'est pas mal documenté dans la littérature économique, les entreprises les plus grosses sont aussi celles qui sont le moins agiles et qui s'adaptent le moins vite au changement. Simplement, on est aussi dans un monde où il n'y a pas, pour les entreprises, il n'y a pas qu'une dimension économique, il peut aussi y avoir une dimension géopolitique. Et on s'aperçoit dans la concurrence entre les grandes entreprises, en particulier chinoises, qui sont vraiment montées en puissance ces dernières années, et les entreprises européennes, ou les entreprises européennes et les entreprises américaines, que dans certains secteurs, et en particulier, comme ça a été dit, les secteurs où les coûts fixes sont extrêmement importants, vous apercevez que si vous n'avez pas atteint la taille critique, vous ne faites pas forcément le poids. Et toute la difficulté de la politique de la concurrence aujourd'hui est celle-ci, et d'arriver à gérer d'arbitrer entre ce besoin de concurrence pour être toujours agile et toujours être le mieux, le plus compétitif, et puis la nécessité aussi de vous donner suffisamment de pouvoir, en fait, hein, c'est bien ça, pour agir et réagir face à d'autres entités qui pourraient vouloir vous acquérir. Et je crois que dans la fusion Alstom-Siemens, c'était ça qui était quelque part mis en avant par ceux qui ont critiqué la politique de concurrence européenne. C'était l'idée qu'on empêchait l'émergence d'un géant européen pour faire face à un géant chinois équivalent, avec la crainte que le géant chinois, à un moment donné ou à un autre, rachète l'une des deux entités. Donc, il n'y a pas forcément uniquement la politique de concurrence qui permet de répondre à ce type de problématique, même si elle en est l'un des aspects importants.
Et aujourd'hui, vous diriez, Muriel Chény, qu'il y a une prise de conscience du côté de la Commission européenne de la nécessité peut-être de faire évoluer cette doctrine de la concurrence, avec cette difficulté, arriver à réformer cette doctrine sans trop l'assouplir, sans quoi, comme l'expliquait Anne Perrot, ce sont les consommateurs qui en payeraient le prix.
Alors, une prise de conscience, sans aucun doute, effectivement, puisqu'il y a eu une lettre de mission qui avait été adressée pour que la commissaire à la concurrence étudie de manière très approfondie cette question. Alors, cela étant, je voudrais rappeler quand même un petit point, c'est que on a tardé en Europe à avoir un contrôle des concentrations. On a réussi à se doter d'un contrôle des concentrations uniquement en 1989, parce que c'est une question éminemment sensible pour les différents États membres. Et d'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui de la fusion Alstom-Siemens, mais très rapidement après l'adoption de ce contrôle des concentrations en 89, il y a eu une fusion qui avait déjà fait à l'époque couler beaucoup d'encre. C'était la fusion Airbus de Havilland, hein, qui avait été interdite par la Commission européenne et qui avait déjà, en son temps, suscité beaucoup de discussions. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? En l'état, c'est vrai qu'on peut regretter, cela a déjà été dit, que peut-être il n'ait pas été suffisamment pris en compte l'existence d'une concurrence en dehors de l'Union européenne, et donc en particulier effectivement du concurrent chinois. Ensuite, ce qui pose question, c'est dans quelle mesure est-ce que dans le cadre d'un contrôle des concentrations, qui a une dimension éminemment politique, je l'ai dit, dans quelle mesure on ne peut pas prendre en compte d'autres paramètres que concurrentiels. Et ça soulève la question, effectivement, de ce qui existe, par exemple, en France ou en Allemagne. C'est un pouvoir d'évocation qui permet, une fois l'appréciation purement concurrentielle portée sur l'opération, d'en changer le sens, donc d'autoriser ou à l'inverse d'interdire une opération pour des raisons d'intérêt général. Et c'est vrai que la question peut se poser. Ça existe en France, ça existe en Allemagne. Cela existe également, je crois, en Espagne pour des raisons liées à la protection de l'environnement. Voilà, c'est une question qu'on pourrait se poser, et dans une évolution des règles de concurrence, peut-être faudrait-il s'interroger sur ce point.
Il nous faudrait une politique de la concurrence qui intègre des dimensions économiques, mais géopolitiques, comme le disait Sylvie Mazzelli, et aussi éventuellement des problématiques d'intérêt général, environnemental. Anne Perrot, ça fait beaucoup de contraintes qui pèsent sur ce droit de la concurrence.
Oui, c'est trop. C'est trop. Les économistes ont l'habitude de dire, quand on se fixe un objectif, il faut un instrument pour l'atteindre. Et donc, fixer à la politique de la concurrence des objectifs en termes de respect de l'environnement, maintien de l'emploi, protection de la vie privée, etc., c'est trop d'objectifs pour un seul instrument, finalement. Et je ne suis pas sûre que il faudrait... Alors, je suis pas non plus sûre qu'il faudrait avoir un super régulateur au-dessus de la Commission, de la DG Comp, etc., qui aurait le pouvoir, par exemple, dans le numérique, de respecter tous ces objectifs en même temps, parce que finalement, dans l'arbitrage entre ces différents objectifs, il y a des choix politiques, et c'est aux politiques, donc aux populations, finalement, in fine, d'arbitrer entre différents objectifs. Ça nous ramène un petit peu, d'ailleurs, à des choses qu'on a évoquées quand on parlait du numérique. Comment arbitrer entre protection de la vie privée et concurrence. Par exemple, en France, la CNIL a pris des positions tout à fait fermes contre ce qu'on appelle les cookies, et notamment, enfin, les cookies, c'est des petits programmes que vous laissez quand vous naviguez sur des sites internet. La collection de ces cookies permet de cibler finalement votre profil et donc de vous adresser des publicités. Alors le problème, c'est que si on interdit, comme souhaitait initialement le faire la CNIL d'une manière très forte, si on interdit ces cookies tiers, et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? On favorise ce qu'on appelle les environnements logués, c'est-à-dire les environnements dans lesquels vous devez rentrer un identifiant pour pouvoir avoir accès à des services.
C'est le cas de
Google. Voilà, quand c'est le cas de Google, quand vous êtes chez Google, si vous avez un compte Gmail, vous êtes dans un environnement logué, et donc Google n'a nul besoin de récolter tous ces cookies. Il en sait bien assez comme ça. Mmh. Et donc, vous voyez que c'est difficile d'arbitrer entre ces deux points de vue, parce que on pourrait dire, après tout, c'est légitime d'empêcher le dépôt de ces cookies tiers sur l'environnement de navigation des internautes. Mais si on les interdit, finalement, on favorise les géants. Alors, est-ce qu'il faudrait un régulateur qui arbitre entre ces deux inconvénients? Ça, je dirais que c'est quand même largement entre les mains du politique, et ça ne devrait pas être entre les mains d'une autorité de concurrence.
Est-ce qu'il y a alors aussi aux mains du politique, et vous allez nous le dire, Sylvie Matelli, ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est la question des aides d'État à laquelle j'aimerais que l'on arrive maintenant pour la toute dernière partie de cette émission, puisque certains estiment que les entreprises européennes sont désavantagées par rapport aux firmes américaines ou chinoises, parce que l'Union européenne, contrairement à ses concurrents, respecterait les règles de l'OMC sur les aides d'État. C'est aussi simple que cela ?
Non, c'est plus compliqué. Effectivement, il y a une situation, il y a une certaine distorsion entre la Chine, les États-Unis et les entreprises européennes. Simplement, la question des aides d'État, c'est aussi une boîte de Pandore. C'est-à-dire, si vous commencez à autoriser les aides d'État, où est-ce que vous mettez la limite ? À quel moment vous considérez que l'aide d'État va finalement réduire et pénaliser ? Alors déjà, créer des distorsions de concurrence, ça c'est certain, sachant que plus vous êtes riche, plus vous avez les moyens de distribuer des aides à vos entreprises. Donc, c'est en ça que la distorsion de concurrence est très gênante. Et puis, à quel moment vous empêchez votre entreprise de jouer le jeu de la concurrence qui permet, comme on l'a dit précédemment, qui permet quand même d'assurer à la fois l'agilité et la compétitivité de l'entreprise, mais aussi aux consommateurs de payer le prix le plus juste en réalité. Donc, on est sur un sujet qui est extrêmement compliqué parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec la politique de la concurrence et tous les facteurs qu'elle devrait intégrer aujourd'hui si on voulait les lister pour se réformer, on dépasse bien très largement la politique de la concurrence. On est sur une question de quel modèle économique veut-on défendre, quelle concurrence, est-ce que on continue à promouvoir et à favoriser le consommateur et le prix payé par le consommateur, mais à la fois comment on agit et comment on réagit face à ces distorsions de concurrence qui viennent de l'extérieur.
C'est ça, ce sont les subventions étrangères qui pose question à Sylvie Matelli, pardon de nous interrompre, mais il y a vraiment une question autour de la nécessité de réagir face à ces subventions étrangères. La Commission a lancé un livre blanc au mois de juin. Il y a eu là encore une prise de conscience ?
Oui, il y a eu une. Alors la prise de conscience existait déjà, mais je crois qu'on considérait que en empêchant ou en limitant, en encadrant très strictement ces aides d'État, on allait favoriser la concurrence, donc la compétitivité de nos entreprises, et que de fait, elles seraient de toute façon, elles auraient toujours leur place et leur position sur les marchés, et qu'elles arriveraient à compétir, y compris avec des pays qui et des entreprises venant de pays qui subventionnaient largement leurs entreprises. Aujourd'hui, ce qui est certain sur ces aides d'État, c'est que pour éviter les effets pervers, distorsion de concurrence et de ces aides d'État, le niveau européen est le niveau le plus adéquat. Il faut quand même qu'il y ait un encadrement au niveau européen, quel que soit le lest que l'on va pouvoir lâcher sur ces aides d'État, il faut toutefois qu'elles soient encadrées. Simplement, une fois que j'ai dit ça, on va probablement pas au niveau européen, pour différentes raisons tout à fait légitimes, autoriser les États à subventionner des entreprises, comme ça peut être le cas en Chine. Donc la question qu'il faut se poser aussi, au-delà de la politique de la concurrence, c'est comment on restaure, au moins sur les marchés européens, une concurrence loyale entre des entreprises chinoises et des entreprises européennes. Et là, ça questionne sur les taxes sur différentes activités, dont par exemple la taxe carbone participe aussi de ça.
Et puis aussi les normes, la question des normes et sociales, environnementales. Anne Perrot, sur cette question des aides d'État.
Oui, alors il faut vraiment se méfier avec les aides d'État, parce que ça a l'air d'être un instrument facile comme ça, on n'a qu'à donner de l'argent à nos entreprises et puis tout ira bien. Alors il y a déjà un gros danger, c'est la course aux subventions. La poche des États n'est pas infiniment profonde, in fine il y a quelqu'un qui paye tout ça, et donc distribuer largement des subventions, non seulement ça fausse la concurrence, mais en plus c'est un processus dynamique assez dangereux et vain. Sur les aides d'État, il y a un premier problème qui est celui de la Chine, c'est qui est que la Chine est rentrée dans l'OMC il y a maintenant une vingtaine d'années et qu'elle ne respecte pas ses engagements à l'OMC. Quand on rentre dans l'OMC, on rentre dans le cycle du commerce international et on a un certain nombre de règles qui ne sont pas exactement des règles concurrentielles, mais qui sont des règles commerciales. Et la, la Chine s'exonère elle-même de l'application de ces règles. Donc la première chose qu'il faudrait certainement, c'est restaurer les organes de règlement des différends au sein de l'OMC, que les États-Unis ont contribué à mettre par terre, d'ailleurs.
Et dont on peut espérer qu'il va un peu revenir à la vie avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche.
Exactement. C'est un des grands espoirs nourris sur le front du commerce international par l'arrivée de Biden. Et on peut espérer que l'OMC va enfin jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire de régler tout ça. Il y a une deuxième chose qui ne... Parce que, encore une fois, quand on aura fait ça, on n'aura pas tout réglé. Pourquoi ? Parce que les règlements de l'OMC concernent des biens physiques, évidemment. Tout ça a été conçu, écrit à un moment où l'échange de services numériques n'avait évidemment pas l'importance qu'il a aujourd'hui. Et l'OMC ne prévoit pas grand-chose pour l'échange international de services. Donc, par exemple, une solution, finalement, pour éteindre ou, disons, modérer le pouvoir des grands GAFA américains, eh bien, ce serait d'envisager la concurrence des plateformes chinoises. Mais tout ça ne peut pas se concevoir dans le cadre de l'OMC, parce que, encore une fois, l'OMC ne prévoit pas la concurrence mondiale et l'échange dans le cadre du commerce international de ces services numériques. Donc, il reste énormément de problèmes à traiter, en réalité, avant de venir à bout du subventionnement massif des entreprises chinoises par leurs États. Et puis, juste un dernier point là-dessus, c'est que il faut voir aussi que, il ne faut pas se tromper d'instrument. Il y a la politique commerciale d'un côté, c'est-à-dire quelque chose qui peut mettre des droits de douane, par exemple, si on observe que l'acier chinois est massivement subventionné, on peut taxer l'aluminium ou l'acier ou tout autre produit à l'entrée d'un territoire, et ça, l'OMC permet de le faire. Et puis, il y a la politique de concurrence, qui, en Europe, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, traite du problème des aides d'État. Mais dans un cas, il s'agit de réguler le comportement des États, et dans l'autre, il s'agit de réguler le comportement des entreprises. Et donc, ce ne soient pas les mêmes objets de droit, disons, qui sont au bout de la chaîne.
Et on va finir avec vous, Muriel Chani, avec le droit, justement. Un dernier mot, peut-être un mot de conclusion sur l'évolution possible de cette doctrine européenne de la concurrence dont on a parlé tout au long de cette émission.
Écoutez, il me semble que, s'agissant du droit de l'Union européenne, il faut d'abord adapter le droit existant. Moi, je me méfie, en bonne juriste, je me méfie des grandes réformes. Et je pense qu'il faut réformer d'une main tremblante. Autrement dit, il faut d'abord adapter ce qui existe, adapter la pratique décisionnelle, adapter aussi les règles existantes, et puis n'adopter de règles supplémentaires que dans la mesure où ça apparaît nécessaire. Et donc je crois que ça passe plus par une adaptation que par une révolution, effectivement.
Une avancée pas à pas. Merci beaucoup à toutes les trois, Anne Perrault, Sylvie Matelli, Muriel Chani, d'avoir joué le jeu de la table ronde à distance. Merci pour cette discussion très éclairante. On mettra sur la page de l'émission les références de vos articles et de vos ouvrages. Merci à toutes les trois et bon après-midi.
Merci à vous.
Merci.
Entendez-vous l'écho, une émission préparée avec Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, aujourd'hui, Sylvain Latu. Demain, premier épisode de notre série sur la Belle Époque. On se glissera dans les intérieurs bourgeois en compagnie d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur et héros de Maurice Leblanc. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.